Chapitre 6. Les années calmes. Je suis l'enfant d'un adultère, et j'ai passé les 6 premières années de ma vie dans le royaume des montagnes, en compagnie de ma mère. Je n'ai pas de souvenir précis de cette période. À mes 6 ans, mon grand-père m'a emmené à la place forte d'Œil de Lune et m'a remis à mon oncle paternel, Vérité Loinvoyant. Quand mon père a appris mon existence, il l'a considéré comme le résultat d'un manquement personnel, et politiquement, comme une faute, ce qui l'a conduit à renoncer à ses droits sur le trône des Loinvoyants et à se retirer de la vie de la cour. On m'a confié d'abord aux soins de Burick, le maître des écuries de Castelserre. Plus tard, le roi subtil a jugé utile de s'assurer ma fidélité et de me placer en apprentissage auprès de son assassin royal. À la mort de Subtil, due à la félonie de son dernier fils, royal, ma loyauté s'est reportée sur le roi Vérité. Je l'ai suivi et servi jusqu'au jour où je l'ai vu déverser sa vie et son essence même dans un dragon taillé dans la pierre. C'est alors que Vérité le dragon s'est animé, et c'est ainsi que les 6 duchés ont été sauvés des déprédations des pirates rouges venus des îles d'outre-mer. Car Vérité a pris la tête des anciens, eux aussi sous la forme de dragons, pour purger le royaume des envahisseurs. Après avoir servi mon roi, blessé de corps et d'esprit, je me suis retiré pendant 15 années de la cour et de la société, auxquelles je pensais ne jamais retourner. Pendant cette période, j'ai tenté de rédiger une histoire des 6 duchés ainsi qu'un compte-rendu de ma propre existence. Je me suis aussi procuré et j'ai examiné de nombreux manuscrits et documents qui portaient sur une grande diversité de sujets. La disparité de ces études répondait en réalité à un projet concerté de ma part pour découvrir la vérité. Je m'acharnais à trouver et à observer les éléments et les forces qui avaient déterminé le cours de ma vie. Cependant, plus j'approfondissais mes recherches, plus je couchais mes réflexions sur le papier et plus la vérité m'échappait. Ce que la vie m'a appris durant mes années d'érémitisme est que nul n'atteint jamais à la vérité tout entière. Seul le temps jetait une nouvelle lumière sur tout ce que je croyais autrefois de mes expériences et de moi-même. Ce qui me semblait parfaitement clair se trouvait plongé dans l'ombre et des détails que j'avais jugés sans intérêt devenaient suprêmement importants. Burick, le maître d'écurie, l'homme qui m'a élevé m'a un jour mis en garde. Quand tu retranches des parties de la vérité pour éviter le ridicule, tu finis par avoir l'air d'un imbécile. Par expérience, j'ai constaté la véracité de ce propos. Toutefois, même sans retrancher ni rejeter de façon intentionnelle des parties de la vérité, des années après avoir consigné la description complète et objective d'un événement, on peut s'apercevoir qu'on a menti. Ces mensonges n'ont rien de délibéré et sont simplement le fruit d'éléments dont on ignorait l'existence à l'époque où l'on a rapporté les faits ou de certains détails dont on n'avait pas perçu la portée. Nul n'apprécie de se retrouver dans pareille situation, mais celui qui prétend n'en avoir jamais fait l'expérience ne fait qu'ajouter un mensonge à un autre. Mes tentatives de rédaction d'une histoire des 6 duchés se fondaient sur des comptes rendus oraux et sur les anciens manuscrits auxquels j'avais accès, et je savais, alors même que je posais la plume sur le papier, que je ne faisais peut-être que perpétuer les erreurs d'autres que moi. Cependant, il ne m'était jamais venu à l'idée qu'entreprendre de raconter ma propre vie pouvait être l'objet du même défaut. J'ai appris que la vérité est un arbre qui croît à mesure qu'on acquiert de l'expérience. L'enfant voit la graine de sa vie quotidienne, mais l'homme qui se retourne sur son existence en voit l'arbre. Nul ne peut retrouver son enfance, mais il existe des intermèdes où, pendant quelque temps, on peut éprouver à nouveau le sentiment que le monde est clément et qu'on est immortel. J'ai toujours été convaincu que telle était l'essence de la prime jeunesse, la certitude que les erreurs n'ont rien de fatal. Le fou réveilla ce vieil optimisme chez moi, et même le loup se comporta en louveteau étourdi pendant les jours qu'il passa parmi nous. Notre hôte ne s'inséra pas de force dans notre existence, et je n'éprouvais nul besoin de m'adapter à sa présence, ni de modifier mes habitudes à cause de lui. Il se joignit à nous, tout simplement, calquant ses horaires sur les nôtres et faisant sien mon travail d'écriture. Il était toujours debout avant moi. Quand je me réveillais, je trouvais la porte de mon étude ouverte, ainsi que celle de ma chambre et bien souvent celle de l'entrée. De mon lit, je le voyais assis en tailleur sur la chaise de mon bureau. Il avait déjà fait sa toilette et il était habillé de pied en cap, prêt pour une nouvelle journée. Sa somptueuse tenue avait disparu après le premier jour, remplacée par un pourpoint et des chausses toutes simples, ou le soir, par une robe douillette. Dès que j'émergeais du sommeil, il le sentait et il tournait son regard vers moi avant que j'aie le temps de prononcer un mot. Il était toujours en train de lire. Que ce soit les manuscrits et les documents que j'avais laborieusement accumulés ou ceux que j'avais écrits moi-même. Certains d'entre ces derniers renfermaient mes essais avortés d'une histoire des six duchés. D'autres, mes efforts sans queue ni tête pour trouver un sens à ma vie en la couchant sur le papier. Me voyant éveillé, le fou haussait les sourcils, puis rangeait avec soin le document qu'il était occupé à étudier, à l'endroit précis où il l'avait pris. S'il l'avait voulu, il aurait pu me laisser dans l'ignorance absolue de l'examen auquel il soumettait mes textes, mais non. Il manifestait son respect pour mon intimité en ne m'interrogeant jamais sur ce qu'il avait lu. Les réflexions que j'avais confiées au vélin restaient privées, mes secrets scellés derrière les lèvres du fou. Il se coula dans ma vie avec aisance et y remplit une place dont je ne m'étais pas aperçu qu'elle était vacante. Tant qu'il séjourna chez moi, j'oubliais presque l'absence de heurts, ce qui ne m'empêchait pas de mourir d'envie de lui présenter le brave garçon que mon pupille était devenu et de lui en parler fréquemment. Parfois, le fou me prêtait main forte pour les travaux d'extérieur, par exemple lorsque je réparais l'enclos de pierre et de rondins. Quand un seul homme suffisait à la tâche, par exemple pour creuser de nouveaux trous afin d'y planter des poteaux, il s'asseyait non loin et me regardait œuvrer. En ces occasions, nos échanges se limitaient à quelques commentaires sur le labeur que j'effectuais ou aux plaisanteries sans méchanceté de deux hommes qui se sont connus dans leur jeunesse. S'il me prenait l'envie de l'entretenir d'affaires plus graves, il balayait mes questions par quelques bouffonneries. Nous montions Malta à tour de rôle, le fou soutenant qu'elle était capable de sauter n'importe quel obstacle, ce dont elle nous apporta la preuve en franchissant des barrières que nous avions dressées sur mon sentier. Pleine de feu, la petite jument paraissait y prendre autant de plaisir que nous. Après notre souper, nous nous rendions parfois au sommet des falaises, ou bien nous descendions aux plages à l'heure où la marée se retirait. Au crépuscule, nous chassions le lapin en compagnie du loup, puis nous rentrions et allumions un feu, davantage pour son côté convivial que pour sa chaleur. Le fou avait apporté plusieurs bouteilles d'alcool d'abricot, et sa voix n'avait rien perdu de sa qualité. Aussi le soir, il chantait, bavardait et racontait des histoires à la fois amusantes et extraordinaires. Certaines paraissaient tirées de ses propres tribulations, d'autres étaient à l'évidence des contes traditionnels qu'il avait glanés en chemin. Ses mains gracieuses étaient encore plus expressives que les marionnettes qu'il fabriquait autrefois, et ses traits mobiles lui permettaient de donner chair et vie aux personnages de ses anecdotes. C'est seulement plus tard, après que le feu s'était réduit en braise et que son visage avait pris l'aspect d'une tache sombre sans forme distincte, qu'il dirigeait mes bavardages dans le sens qui lui convenait. Le premier soir, dans un murmure ralenti par l'eau-de-vie, il s'enquit. « Sais-tu ce qu'il m'en a coûté de me laisser emporter par la fille au dragon en t'abandonnant derrière moi ? J'ai dû me raccrocher à ma conviction que les roues du destin étaient en branle et que tu survivrais. Il m'a fallu toute ma foi en moi-même pour m'envoler en te laissant sur place. « Ta foi en toi-même ? » fis-je, en feignant d'être vexé. « N'avais-tu donc aucune foi en moi ?» Le fou avait étendu les draps et la couverture du lit de heurt par terre devant l'âtre, et nous avions quitté nos sièges pour le confort douteux de cet aménagement. Le loup, le museau sur les pattes, somnolait à ma gauche tandis qu'à ma droite, le fou était couché à plat ventre, appuyé sur les coudes, le menton dans les mains. Les dernières flammèches de la cheminée se reflétaient dans ses yeux en une danse joyeuse. « En toi, ma foi, je te répondrai seulement que je me sentais grandement rassuré de savoir le loup à tes côtés. »
« Ah, cela, sa confiance, était bien placée !»
intervint Œil de Nuit d'un ton ironique. « Je croyais que tu dormais. »«
J'essaie !»
D'une voix rêveuse, le fou poursuivit. « Tu avais survécu à tous les cataclysmes que j'avais vus dans ton avenir. Je t'ai donc quitté, en m'efforçant de me convaincre que s'ouvrait devant toi une période de calme, voire d'apaisement. » Elle a eu lieu, d'une certaine façon. Je pris une inspiration, prêt à évoquer ma veillée mortuaire auprès de Guillot, dont je m'étais servi pour m'emparer par l'art de l'esprit de Royal, et lui imposer ma volonté. Mais je me tus. M'écouter ne lui serait utile en rien, et revivre cet épisode ne m'apporterait rien non plus. Je relâchai ma respiration. J'ai trouvé la paix par morceaux, petit bout par petit bout. Et je souris bêtement. Curieux, les détails qu'on peut juger amusants quand on a bu assez. Je narrai au fou l'année que j'avais passée dans les montagnes. Le loup et moi étions retournés dans la vallée aux sources chaudes, où j'avais bâti une cabane en prévision de l'hiver, car les saisons changent vite dans ces régions élevées. Un matin, on s'aperçoit que les feuilles des bouleaux se sont veinées de jaune et que les aulnes ont viré au rouge dans le courant de la nuit. Quelques jours encore, et il ne reste plus que des branches aux doigts nus qui se tendent vers un ciel bleu et glacé. Les persistants courbent le dos pour résister à l'hiver prochain, puis la neige arrive, cache-misère immaculée. Je relatais au fou mes jours de chasse avec Œil de Nuit pour toute compagnie. Mes proies les plus fuyantes étaient la guérison et le repos de l'esprit. Nous vivions simplement, comme des prédateurs, sans attache sinon l'un avec l'autre, et cette solitude absolue constituait l'onguent le plus efficace pour combattre les blessures que j'avais subies dans ma chair et dans mon âme. Pareils traumatismes ne guérissent jamais vraiment, mais j'avais appris à m'en accommoder, comme Burick avait appris à vivre avec sa mauvaise jambe. Nous avions chassé le cerf et le lapin, et j'avais fini par accepter l'idée que j'étais mort, que j'avais perdu tout ce qui comptait dans mon existence. Les vents hivernaux s'étaient mis à tourbillonner autour de notre petit abri, et j'avais compris que Molly n'était plus mienne. Ces journées glaciales ne duraient pas longtemps, intermèdes lumineux où la blancheur scintillante de la neige réfléchissait le soleil avant que le crépuscule aux doigts bleutés ne revînt tirer sur nous la nuit profonde. J'avais aussi appris à tempérer ma peine en songeant que ma petite fille grandirait protégée par le bras de Burick, tout comme moi autrefois. J'avais cherché à me débarrasser du souvenir de Molly. J'éprouvais une douleur poignante chaque fois que je me remémorais la confiance qu'elle me portait et que j'avais trahie. C'était la pierre la plus brillante d'un collier étincelant de réminiscences déchirantes. J'avais toujours rêvé de me libérer de mes devoirs et de mes obligations, mais à présent que ces liens étaient rompus, j'éprouvais un sentiment d'émancipation, certes, mais aussi de mutilation. Tandis que les brefs jours d'hiver se succédaient, entrecoupés de longues nuits froides, j'avais passé le temps en dénombrant les gens que j'avais perdus. Ceux qui me savaient encore en vie tenaient sur moins de 5 doigts. Le fou, la reine Kétriken, Astérie, la ménestrelle, et par leur biais, Imbre. Voilà les 4 personnes au courant de ma survie. Quelques autres m'avaient vu après ma mort, parmi lesquels Pogne, le maître d'écurie, et un certain Tag, garde royal, mais les circonstances dans lesquelles s'étaient déroulées ces brèves rencontres permettaient de penser qu'elles ne susciteraient que l'incrédulité et rien de plus. Tous ceux que j'avais connus par ailleurs, y compris ceux pour qui j'avais été le plus cher, tous me croyaient mort et enterré. Et il était hors de question que je les détrompe. J'avais déjà été exécuté 1 fois pour pratique de la magie du vif. Je ne tenais pas du tout à risquer une mise à mort plus définitive. Même s'il avait été possible de me laver de la répugnance attachée à mon don, je n'aurais pas pu me présenter à Burick ni à Molly sous peine de nous anéantir tous. En imaginant que Molly eût été capable de tolérer ma magie des bêtes et de pardonner les nombreuses fois où je lui avais menti, comment défaire les liens de son mariage avec Burick? quant à ce dernier, se voir brusquement comme un usurpateur auprès de mon épouse et de ma fille l'aurait tué. Aurais-je pu fonder mon bonheur sur un tel socle ? Émolie. Je me suis efforcé de me consoler en songeant qu'ils étaient à l'abri et heureux. Ne pouvais-tu pas te servir de l'art pour t'en assurer ? Les ombres s'étaient approfondies dans la pièce, et le fou contemplait le feu. J'avais l'impression de me raconter à moi-même ma propre histoire. Je pourrais te répondre que j'avais acquis assez de discipline pour les laisser à leur intimité, mais en vérité, je craignais de devenir fou de jalousie, je pense, si j'étais témoin de l'amour qu'ils partageaient. Je regardais moi aussi le feu, tout en évoquant ses souvenirs, mais je sentis que le fou tournait les yeux vers moi. Je ne bougeais pas. Je ne voulais pas lire la moindre compassion sur ses traits. Il y avait longtemps que je n'éprouvais plus le besoin d'attirer la pitié. J'ai trouvé la paix de l'âme, repris-je. Lentement, peu à peu, mais je l'ai trouvée. Un matin, Œil de Nuit et moi revenions d'une chasse commencée à l'aube. Nous étions satisfaits de notre sortie et nous rapportions une chèvre des montagnes que les grosses chutes de neige avaient forcées à quitter ses hauteurs habituelles. Le versant que nous descendions était escarpé, la carcasse éviscérée lourde sur mes épaules et la peau de mon visage raide comme un masque à cause du froid mordant qui tombait du ciel bleu. Je voyais un mince ruban de fumée s'échapper de ma cheminée et juste derrière ma cabane, la vapeur montait des sources chaudes. Au sommet de la dernière éminence, j'ai fait une halte pour reprendre mon souffle et m'étirer le dos. Toute la scène me revenait avec limpidité. Œil de Nuit s'était arrêté à côté de moi, le museau baigné de la buée de sa respiration haletante. J'avais protégé le bas de mon visage à l'aide du col de mon manteau, à présent à demi agrégé à ma barbe par le froid. J'avais contemplé la vallée en songeant que nous avions de la viande pour plusieurs jours, que notre petite maison résistait victorieusement à la poigne glacée de l'hiver et que nous étions presque arrivés chez nous. J'étais gelé, épuisé, mais c'était la satisfaction qui dominait en moi. J'avais chargé notre proie sur mes épaules. « Nous sommes presque chez nous », avais-je dit à Œil de Nuit. « Presque chez nous », avait-il répété. Et, dans cette pensée partagée, j'avais perçu une signification que nul n'aurait pu y introduire par la simple parole. Chez nous, un lieu où nous avions notre place. Il y avait quelque chose de définitif dans ces deux mots. L'humble cabane était devenue chez nous, une destination rassurante où je savais trouver tout ce dont j'avais besoin. Soudain, alors que je la regardais, j'avais éprouvé un tiraillement de conscience, comme si j'avais oublié de remplir une obligation, et il m'avait fallu un moment pour saisir ce qu'était cette omission. Toute une nuit avait passé sans que je songe une seule fois à Molly. Où donc avaient disparu ma douleur et mes regrets ? Quel esprit superficiel étais-je donc pour oublier mon deuil et ne m'intéresser qu'à ma dernière chasse ? Alors, j'avais tourné mes pensées vers le lieu et les gens que recouvrait autrefois l'expression « chez moi ». Quand je me vautre dans le cadavre d'une proie pour m'en remémorer le goût, tu me fais des reproches. J'avais regardé Œil de Nuit, mais il avait refusé de braquer ses yeux sur les miens. Il était assis dans la neige, les oreilles pointées vers notre cabane. Une désagréable petite brise glacée agitait ses poils, mais sans pénétrer jusqu'à sa peau. « Ce qui veut dire ?» demandai-je, bien que le sens de sa déclaration fut parfaitement clair. Tu dois cesser de renifler la dépouille de ton ancienne vie, mon frère. Tu aimes peut-être souffrir sans arrêt, mais pas moi. Il n'y a pas de honte à se détourner de vieux os, changeur. Il tourna enfin la tête pour me regarder de ses yeux profondément enfoncés dans leurs orbites. Il n'y a pas de sagesse particulière à s'infliger constamment des blessures. Quel sentiment de fidélité te rattache-t-il à cette douleur ? Tant détourné ne t'amoindrira pas. » Puis il s'était levé, ébroué pour faire tomber la neige de son pelage et engagé d'un trot résolu dans la pente immaculée. Je lui avais emboîté le pas, mais plus lentement. Je lançai un regard au fou. Ses yeux étaient fixés sur moi, mais restaient indéchiffrables dans la pénombre. C'est là, je crois, la première miette de paix intérieure que j'ai trouvée. Je ne tire cependant aucune gloire de sa découverte, car c'est Œil de Nuit qui a été obligé de me mettre le nez dessus. Un autre aurait peut-être compris du premier coup cette évidence. Il ne faut pas réveiller les souffrances passées. Quand elles cessent leur visite, mieux vaut ne pas les inviter à nouveau. La voix du fou s'éleva, très douce, dans la pièce envahie par l'ombre. Il n'y a rien de déshonorant à se débarrasser de la douleur. Parfois, on trouve rapidement l'apaisement quand on cesse simplement de l'éviter. Il remua légèrement dans le noir. « Et tu ne restes plus éveillé la nuit, les yeux grands ouverts à penser à ce que tu as aimé. » J'eus un petit grognement. Je le souhaiterais, mais le mieux dont je puis me vanter, c'est d'avoir cessé de susciter volontairement chez moi cet accablement. Quand l'été est enfin arrivé et que nous nous sommes remis en chemin, j'ai eu l'impression de changer de peau. Je me tus, et le silence se prolongea un moment. Puis le fou dit « Ainsi, tu as quitté les montagnes pour revenir en serre. » Ce n'était pas le cas, il le savait bien. Il m'aiguillonnait seulement pour m'obliger à poursuivre ma narration. « Pas tout de suite, » répondis-je. Malgré les objections d'Œil de Nuit, il me semblait impossible de m'en aller des montagnes sans d'abord refaire une partie du trajet que nous y avions effectué. Je suis retourné à la carrière où Vérité avait sculpté son dragon. Je me suis tenu là même où se dressait la statue. Ce n'était qu'une étendue nue et plane entre de hautes murailles noires, sous un ciel gris ardoise. On ne voyait nulle trace de ce qui s'y était produit, à part l'état d'éclats de pierre et quelques outils émoussés. Je me suis rendu jusqu'à notre bivouac. Je savais que les tentes écroulées et les objets éparpillés çà et là nous avaient appartenu autrefois, mais ils avaient pour la plupart perdu toute signification à mes yeux. Je n'avais plus devant moi que des lambeaux anonymes de tissus virants au gris, trempés, étalés sur le sol. J'ai ramassé quelques petites choses, les cailloux du jeu de Caudron, entre autres. Je repris mon souffle pour la suite. Puis je suis descendu là où Carod avait péri. Il ne demeurait plus de lui que des ossements et des bouts de vêtements moisis, mais il n'avait pas été dérangé. Les animaux n'aiment pas la route d'art, comme tu le sais.
« Oui, je le sais, »
murmura le fou. J'avais l'impression qu'il m'avait accompagné dans la carrière abandonnée. J'ai passé un long moment sans bouger, à contempler ses restes, en m'efforçant en vain de me rappeler le Carod dont j'avais fait la connaissance des années plus tôt. Cependant, la vue de sa dépouille m'apportait comme une confirmation. Tout avait bien été réel, et tout était bien fini. Je pouvais désormais laisser derrière moi les événements que j'avais vécus et les lieux où ils s'étaient produits sans craindre qu'ils ne ressuscitent pour me suivre. Œil de Nuit gronda dans son sommeil. Je posai la main sur son flanc, heureux de le sentir si proche à la fois physiquement et mentalement. Il n'avait pas approuvé ma visite de la carrière. Il avait détesté voyager le long de la route d'art, même si ma capacité à lutter contre l'attirance qu'elle exerçait sur moi et à conserver la conscience de mon identité s'était accrue, et il s'était montré encore plus contrarié quand j'avais affirmé devoir retourner aussi au jardin de pierre. J'entendis un petit cliquetis, celui de la bouteille contre le bord d'un gobelet. Le fou nous resservait à boire. Par son silence, il m'invitait à continuer mon récit. Les dragons étaient revenus là où nous les avions trouvés, et je me suis promené parmi eux. La forêt commençait à regagner du terrain. L'herbe les entourait, haute et drue, et les plantes grimpantes couraient déjà sur eux. Ils étaient aussi magnifiques et fascinants que le jour où nous les avions découverts, et aussi inertes. Ils avaient crevé le dôme des frondaisons quand ils étaient sortis de leur sommeil pour voler au secours de cerfs, et ils n'avaient pas fait preuve de plus de délicatesse à leur retour, si bien que de larges raies de soleil traversaient la végétation luxuriante pour couvrir d'or leurs écailles luisantes. J'avais déambulé parmi eux, et comme la première fois, j'avais perçu un frémissement de vif dans les statues profondément endormies. J'avais trouvé le dragon du roi Sagesse, orné d'andouillés, et poussé la hardiesse jusqu'à poser ma main nue sur son épaule. Je n'avais senti sous mes doigts que des écailles finement ciselées, dures et froides comme la pierre dans laquelle elles avaient été sculptées. Ils étaient tous là. Le dragon à forme de sanglier, le félin ailé, tout le bestiaire incroyablement varié qui était l'œuvre des anciens et des clans d'art passés. J'ai vu la fille au dragon. Je souris, le regard plongé dans les flammes. Elle dort bien. La cavalière est aujourd'hui couchée en avant, les bras affectueusement serrés autour du cou du dragon qu'elle chevauche toujours. J'avais eu peur de la toucher. Je me rappelais trop nettement la faim de souvenirs qui la dévorait et que j'avais apaisé avec les miens. Peut-être craignais-je de reprendre ce que je lui avais donné autrefois de mon plein gré. J'étais passé devant elle en silence, tandis qu'Œil de Nuit me suivait, rasant le sol, le poil hérissé, tous les crocs dénudés. Il avait compris le but réel de ma recherche. « Vérité ?» dit le fou à mi-voix, comme exprimant tout haut l'idée que j'avais laissée informulée. « Oui, vérité, » répondis-je, « mon roi. » Avec un soupir, je repris mon récit. Je l'avais découvert dans le jardin de pierre, quand j'avais aperçu sa peau turquoise qui luisait dans les tachetures de lumière, sous les arbres, Œil de Nuit s'était assis, avait soigneusement rabattu sa queue sur ses pattes de devant et refusait d'approcher davantage. Faisant taire ses pensées, il m'avait prudemment accordé l'intimité de mon esprit. Je m'étais avancé en direction de Vérité le Dragon, à pas lents, mon cœur cognant dans ma poitrine. Là, dans une enveloppe taillée dans l'art et la pierre, dormait l'homme qui avait été mon roi. Pour l'amour de lui, j'avais subi des tourments et des blessures si terribles que j'emporterais les marques dans mon âme et dans ma chair jusqu'à la fin de mes jours. Pourtant, alors que j'atteignais la forme immobile, j'avais senti des larmes me piquer les yeux, et j'aurais tout donné pour entendre à nouveau sa voix familière. Vérité, avais-je fait d'un ton rauque. Mon âme le cherchait de toutes ses forces, paroles, vifs et arts mélangés pour retrouver mon roi, mais en vain. J'avais posé mes mains à plat sur son épaule froide, appuyé mon front contre ce dur ressaut et étendu à nouveau mon esprit, sans me soucier des conséquences. Je l'avais alors senti, mais comme un reflet vague et lointain de ce qu'il avait été. Autant prétendre toucher le soleil quand on capte dans ses mains une mouchure de lumière dans la forêt. Vérité, je vous en supplie, avais-je dit d'un ton implorant, et j'avais encore une fois tendu vers lui jusqu'à la moindre parcelle de mon art. Revenu à moi, je m'étais découvert affaissé contre le dragon. Œil de Nuit n'avait pas bougé, toujours vigilant. Il n'est plus, lui avais-je annoncé. Déclaration vaine et inutile. Vérité n'est plus. Alors, courbant la tête sur mes genoux repliés, j'avais pleuré. J'avais pleuré mon roi, infiniment plus que le jour où son enveloppe humaine avait disparu dans sa forme de dragon. J'interrompis ma narration pour m'éclaircir la gorge, puis je bus un peu d'alcool. Quand je baissai mon gobelet, je vis les yeux du fou posés sur moi. Il s'était rapproché pour entendre les mots que je prononçais d'une voix rauque. La lueur du feu dorait sa peau, mais son regard restait impénétrable. C'est à ce moment-là, je pense, que j'ai accepté sans restriction le fait que mon ancienne existence n'était plus que cendre. Si Vérité était demeurée sous une forme avec laquelle j'aurais pu communiquer, s'il avait encore existé pour partager l'art avec moi, je crois qu'une partie de moi-même aurait souhaité rester Fitz Chevalerie loin-voyant. Mais il n'était plus là, et la disparition de mon roi entraînait inéluctablement la mienne. Quand je me suis relevé et que j'ai quitté le jardin de pierre, je savais avoir enfin à ma portée ce dont je rêvais depuis des années, l'occasion de déterminer par moi-même qui j'étais et le temps de vivre l'existence que je choisirai. Désormais, je prendrai mes décisions tout seul. » Ou presque. Le loup se moquait de moi. Je poursuivis sans lui prêter attention. J'ai encore fait une halte avant d'abandonner les montagnes. J'imagine que tu n'as pas oublié le pilier où je t'ai vu te transformer. Le fou hocha la tête en silence et je continuai mon récit. Arrivé au carrefour où se dressait une grande pierre d'art, je m'étais arrêté, assailli par la tentation, noyé sous un déferlement de souvenirs. La première fois que j'étais passé par là, c'était en compagnie d'Astérie, de Caudron, du fou et de la reine Quétricaine, à la recherche du roi Vérité. Nous avions pris un peu de repos, et lors d'un rêve éveillé qui n'avait duré que le temps d'un éclair, j'avais vu la forêt verdoyante alentour remplacée par un marché grouillant de monde. À la place du fou qui s'était juché sur un pilier de pierre, se tenait une femme, comme lui, au teint blanc et aux yeux quasiment sans couleur. En ce lieu, et cette époque inconnue, elle avait le front ceint d'une couronne de bois, gravée de têtes de coq et ornée de plumes. Et, à l'instar du fou, elle attirait l'attention de la foule par des bouffonneries. Tout cela, je l'avais vu en un instant, comme si j'avais jeté un bref coup d'œil par une fenêtre donnant sur un autre monde. Puis, tout était revenu à la normale autour de moi. Et j'avais assisté à la chute du fou de son perchoir précaire, à demi assommé. Apparemment, il avait partagé ma vision d'un autre monde et d'un autre temps. C'est le mystère de cet épisode qui m'avait conduit à ce carrefour. Le monolithe noir dressé au centre d'un cercle pavé était exempt de toute trace de mousse ou de lichen. Et les symboles gravés sur ses différentes faces m'invitaient vers des destinations inconnues. Je savais maintenant quel était son usage, ce que j'ignorais lors de ma première rencontre avec une de ces portes d'art, et j'en avais fait lentement le tour, reconnaissant au passage le glyphe qui m'aurait ramené à la carrière de pierre. Un autre, j'en avais la quasi-certitude, me transporterait à nouveau dans la cité abandonnée des anciens. Et, sans réfléchir, j'avais tendu le doigt pour suivre les contours de la rune en question. Malgré sa taille et son poids, Œil de Nuit est capable de se déplacer très vite et presque sans bruit. Il avait saisi mon poignet entre ses mâchoires en même temps qu'il s'interposait d'un bond entre la colonne et moi, et j'avais roulé à terre avec lui pour éviter qu'il ne m'arrache la chair de ses crocs. Je m'étais retrouvé couché sur le dos, tandis qu'il se tenait tout près de moi, mon poignet toujours dans l'étau de sa gueule. « Je t'interdis de faire ça !» Je n'avais pas l'intention d'utiliser la pierre, mais seulement de la toucher. « On ne peut pas se fier à cette chose. Je suis entré dans les ténèbres qui règnent dans la pierre. Si je dois t'y suivre à nouveau pour te sauver la vie, tu sais que je n'hésiterai pas. Mais ne me demande pas d'y retourner par pure curiosité de le fouteau. » Et si je me rendais un court moment dans la cité, tout seul? Tout seul? Tu sais bien que tout seul ne veut plus rien dire, ni pour toi, ni pour moi. Je t'ai bien laissé partir seul pour tenter de te joindre à une meute de loups. Ça n'a rien à voir, tu le sais très bien. » Il avait raison. Il m'avait lâché, je m'étais relevé, épousté, et nous n'étions pas revenus sur le sujet. C'est là un des grands avantages du vif. Il évite les longues discussions laborieusement détaillées visant à s'assurer que les deux parties se sont comprises. Un jour, des années plus tôt, Œil de Nuit m'avait quitté pour partager la vie de ceux de son espèce. À son retour, j'avais su, sans qu'il eût à le dire, qu'il se sentait plus à sa place avec moi qu'auprès d'autres loups. Et, au cours des ans qui avaient suivi, nous nous étions encore rapprochés l'un de l'autre. Comme il l'avait remarqué une fois, je n'étais plus tout à fait un homme, ni lui un loup. Nous ne formions plus deux entités véritablement distinctes. Quand je devais prendre une décision, il ne m'imposait pas son opinion. J'avais plutôt le sentiment de débattre avec moi-même de l'à-propos de tel ou tel choix. Cependant, notre bref affrontement au pied du pilier nous avait obligés à regarder en face ce dont nous avions jusque-là détourné les yeux. Notre lien devenait plus fort et plus complexe, dis-je au fou. Et nous ne savions ni l'un ni l'autre comment réagir à cette situation. Le loup leva la tête. Ses yeux profonds se plantèrent dans les miens. Il éprouvait les mêmes doutes que moi, mais il s'en remettait à ma décision. Devais-je révéler au fou notre destination suivante et tout ce que nous y avions appris? Avais-je le droit d'évoquer mon séjour chez ceux du lignage et l'expérience que j'en avais tirée? De nombreuses vies dépendaient des secrets que je détenais. En ce qui me concernait, j'étais tout prêt à confier la mienne au fou les yeux fermés. Mais pouvais-je, de mon propre chef, partager des secrets qui n'étaient pas exclusivement les miens? J'ignore comment le fou interpréta mon hésitation, mais je ne pense pas qu'il l'a pris pour le reflet de mon indécision.
« Tu as raison, »
déclara-t-il brusquement. Il saisit son gobelet et le termina d'un trait, puis il le posa d'un geste ferme par terre. Il fit effectuer un demi-tour à l'une de ses mains gracieuses qui s'immobilisa, son index effilé pointé en l'air dans un geste qui m'était familier depuis longtemps et signifiait « Attends ». Comme tiré par les fils d'un marionnettiste, il se leva d'un mouvement fluide. L'obscurité avait envahi la pièce, mais il se dirigea sans la moindre hésitation vers son paquetage, dans lequel je l'entendis fouiller. Peu après, il revint muni d'un sac de toile. Il s'assit tout près de moi, comme s'il s'apprêtait à me dévoiler des secrets trop intimes pour que même la nuit les surprenne. Le sac posé sur ses genoux était taché et usé. Le fou dénoua le fil qui le maintenait fermé, et il en sortit un objet enveloppé dans une superbe étoffe. Le souffle court, je le regardais le déplier. Jamais je n'avais vu un tissu aussi aérien, ni un motif aussi complexe aux couleurs aussi éclatantes. Malgré la faible lueur du feu mourant, les rouges flambaient et les jaunes chatoyaient. Rien qu'avec cette longueur de textile, le fou aurait pu acheter les faveurs de n'importe quel seigneur. Pourtant, ce n'était pas ce tissu extraordinaire qu'il souhaitait me montrer. Il le déroula sans se préoccuper du plancher grossier sur lequel le superbe matériau s'amoncelait. Je me penchai, en retenant mon souffle, pour voir quelle merveille encore plus grande allait apparaître. L'extrémité du tissu glissa enfin souplement au sol, et je me penchai davantage, abasourdi, afin de m'assurer que mes yeux ne me jouaient pas des tours. Je croyais l'avoir seulement rêvé, dis-je enfin. Et c'était vrai, nous l'avions tous les deux rêvé. Entre ses mains, la couronne de bois montrait l'usure de l'âge. Disparues, les plumes et la peinture aux teintes vives qui l'ornaient autrefois, c'était un simple objet de bois, sculpté avec art, mais d'une beauté austère. « Tu l'as fait fabriquer ?» demandai-je.
« Je l'ai trouvé, »
répondit-il. Puis, il ajouta d'une voix tremblante.
« Ou bien c'est elle qui m'a trouvé, peut-être. »
J'attendis qu'il poursuive, mais en vain. J'approchai la main de la couronne, et il eut un imperceptible mouvement de recul, comme s'il voulait la garder pour lui. Il se reprit aussitôt, et il me l'attendit. Tout en l'acceptant, je compris qu'il partageait ainsi avec moi bien davantage encore de lui-même, beaucoup plus même que lorsqu'il me laissait monter sa jument. J'examinai l'antique diadème sous toutes ses faces et découvris des traces de peinture à l'éclat encore vif au fond des lignes en creux qui dessinaient les têtes de coqs, dont deux possédaient encore leurs yeux de pierre précieuse. Des trous dans le pourtour de l'objet indiquaient où se logeait chaque plume. Je ne reconnaissais pas le bois dans lequel on l'avait taillé. Léger mais résistant, il me donnait l'impression de murmurer entre mes doigts, de chuchoter des secrets dans une langue mystérieuse. Je rendis la couronne au fou. « Mais là, » dis-je à mi-voix, « je vis sa pomme d'Adam monter et descendre.
« Crois-tu que ce soit raisonnable ?»
demanda-t-il d'une voix aussi basse que la mienne.
« Je l'ai déjà essayé, je l'avoue, et rien ne s'est produit. Mais... à présent que nous sommes réunis, prophètes blancs et catalyseurs ensemble, Fitz, nous risquons d'ouvrir la porte à une magie que nous ne comprenons ni l'un ni l'autre. De temps à autre, je fouille dans mes souvenirs, mais dans aucune prophétie qu'on m'a enseignée, je ne trouve mention de cette couronne. J'ignore complètement ce qu'elle signifie, ou même si elle signifie quelque chose. Tu te rappelles la vision que tu as eue de moi. Pour ma part, je n'ai de cet épisode que des souvenirs des plus vagues, comme d'un rêve semblable à un papillon, trop fragile pour le rattraper, mais d'une beauté incomparable dans son vol.
Je me tue. Il tenait la couronne entre ses mains, aujourd'hui aussi dorées qu'elles étaient blanches autrefois. Sans rien dire, nous songeâmes au défi que représentait cet ornement, la curiosité le disputant à la prudence. Pour finir, parce que c'était lui, parce que c'était moi, une solution, une seule s'imposa à nous. Lentement, un sourire insouciant apparut sur les traits du fou. Le même, me dis-je, que le soir où il avait posé ses doigts imprégnés d'art sur la chair sculptée de la fille au dragon. Au souvenir de la souffrance qu'il avait provoquée sans le vouloir, je connus soudain un instant d'appréhension. Mais, avant que j'eusse pu rien dire, il leva la couronne et la posa sur sa tête. Je retins mon souffle. Rien ne se passa. Je dévisageais mon compagnon, écartelé entre le soulagement et la déception. L'espace d'une seconde, nous nous tûmes, puis le fou se mit à pouffer, et nous éclatâmes de rire tous les deux. Toute tension exorcisée, nous rîmes à en pleurer, et quand notre hilarité se calma, je regardais le fou, toujours couronné, toujours mon ami comme il n'avait jamais cessé de l'être. Il s'essuya les yeux. « Tu sais, dis-je, le mois dernier, mon coq a laissé la plupart des plumes de sa queue dans une bagarre contre une belette. Heur les a récupérées. Veux-tu que nous les essayions sur la couronne ?» Il la retira et l'observa avec un fin regret.
« Demain, peut-être. Et je me servirai peut-être aussi de certaines de tes encres pour repasser les couleurs. Te les rappelles-tu ?»
Je haussai les épaules. « Je préférerais m'en remettre à ton coup d'œil, fou. Tu as toujours eu un don dans ces domaines-là. » Avec une solennité exagérée, il inclina la tête pour me remercier de mon compliment. D'un geste vif, il ramassa le tissu entassé par terre et entreprit de remballer la couronne. Le feu n'était plus que braise et nous baignait d'une lueur orangée qui me permettait de me persuader que la peau du fou n'avait pas changé de couleur, qu'il restait le bouffon au teint crayeux de mon enfance et que par conséquent, nous n'avions vieilli ni l'un ni l'autre. Il leva les yeux vers moi, surprit mon regard posé sur lui et me le rendit avec une curieuse expression d'avidité. Il y mit une telle intensité que je finis par m'en détourner. Peu après, il dit
« Eh bien, au sortir des montagnes, tu t'es rendu où ?»
Je pris mon gobelet. Il était vide. Je me demandais quelle quantité d'alcool j'avais ingurgité, puis me rendis compte tout à coup que c'était plus qu'assez pour une soirée. « Demain, fou, demain. Laisse-moi une nuit pour réfléchir à la meilleure façon de te raconter mes aventures. » Une main aux doigts fuselés se referma soudain sur mon poignet. Comme toujours, sa peau était plus fraîche que la mienne.
« Réfléchis, Fitz, mais n'oublie pas. »
Les mots parurent lui manquer brusquement. Ses yeux se plantèrent à nouveau dans les miens et il dit à mi-voix, d'un ton où perçait une supplication.
« Sois le plus complet possible, en toute sincérité, car je ne sais jamais ce qu'il me faut entendre tant que je ne l'ai pas entendu. »
Une fois de plus, la ferveur de son regard m'effraya.
« Encore des énigmes !» déclarai-je en m'efforçant de prendre un ton railleur.
Au lieu de cela, ma réponse sonna comme une confirmation de ses propos.
« Des énigmes, oui, » dit-il. « Des énigmes dont nous sommes les solutions, pour peu que nous parvenions à découvrir les questions. »
Il baissa les yeux sur mon poignet et relâcha sa prise. Il se leva soudain avec la grâce d'un chat, et il s'étira en un mouvement sinueux qui donnait l'impression qu'il se désarticulait, puis remettait chacun de ses os en place. Il posa sur moi un regard empreint d'affection.
« Va te coucher, Fitz,
fit-il comme s'il s'adressait à un enfant.
« Repose-toi tant que tu le peux. Pour ma part, je dois rester encore un peu éveillé afin de mettre de l'ordre dans mes idées. Si j'y arrive, l'eau-de-vie m'est montée à la tête. »
« À moi aussi, » répondis-je.
Il me tendit la main, je la pris, et il me remit sur pied sans effort, avec une force qui me parut comme toujours surprenante chez quelqu'un d'apparence aussi frêle. Mal assuré sur mes jambes, je fis un pas de côté. Le fou m'imita, puis me saisit par le coude pour me redresser.
« Tu veux danser ?»
plaisantai-je faiblement, alors qu'il rectifiait ma position.
« Nous sommes déjà en train de danser, » répondit-il d'un ton mi-plaisant, mi-sérieux.
Puis, comme s'il remerciait une cavalière, il s'inclina courtoisement sur ma main alors que je retirais mes doigts de la sienne.
« Ne m'oublie pas dans tes rêves, »
ajouta-t-il avec des accents d'amoureux transi.
« Bonne nuit, » dis-je, refusant stoïquement de mordre à l'hameçon.
Je me rendis dans ma chambre et le loup se leva, en grognant pour me suivre. Il dormait rarement à plus d'un bras de distance de moi. Je me déshabillais sans me préoccuper de savoir où tombaient mes vêtements, enfilais une chemise de nuit et me glissais lourdement dans mon lit. Le loup avait déjà trouvé sa place sur le sol frais, près de moi. Je fermais les yeux et laissais mon bras descendre jusqu'à ce que j'effleure sa fourrure du bout des doigts.
« Dors bien, Fitz !»
lança le fou. J'entr'ouvris les yeux. Il s'était installé à nouveau dans le fauteuil devant le feu mourant et me souriait par la porte ouverte de ma chambre.
« Je monte la garde !»
fit-il d'un ton mélodramatique. Je secouais la tête devant sa fantaisie, agitais vaguement la main et sombrais dans le sommeil.